Troisième leçon de catéchisme pour adultes par M. l'abbé Montarien, le dimanche 15 octobre, en la chapelle polonaise, rue du Faubourg Saint-Honoré.
On a pris mon plan.
Il était là
et il a disparu. Je peux parler sans plan, mais... Je ne sais pas où je vais arriver. Eh bien, il est parti. Bruxelles rouge. Alors, il s'agit de la Providence ce soir. Je vais commencer par faire un petit peu d'étymologie. Providence, ça vient du latin provideo. Et provideo, ça veut dire deux choses. Ça veut dire prévoir et ça veut dire pourvoir. Et dans la providence de Dieu, il y a ces deux choses-là. Dieu prévoit tout et Dieu pourvoit à tout. Gouverner, c'est prévoir. Et on peut mettre à la place de gouverner, pourvoir. Pourvoir, c'est prévoir, ou bien prévoir, c'est pourvoir. Si j'ai quelques responsabilités, je m'arrange pour prévoir. Il faut que je sache d'avance les besoins. Et puis je mets de côté ce qu'il faut. Multipliez cela par l'infini et vous avez la providence. Voilà pour l'étymologie. Voilà maintenant pour la définition. Je l'ai donné tout à l'heure la définition à tout le monde. C'est la définition du catéchisme pour les enfants. La providence, par sa providence, Dieu maintient dans l'être toutes ses créatures et il les gouverne. Si, comme je le disais il y a un instant, il y a une demi-heure, comme je le disais tout à l'heure, si tout à coup Dieu m'oubliait, c'est impensable cela, si tout à coup Dieu m'oubliait, je rentrerais dans mon néant. Ce serait très impressionnant. Il faudrait presque le lui demander pour qu'il le fasse, pour que ce soit curieux, mais à la condition qu'il me recrée de nouveau ensuite. Je ne veux pas rester trop longtemps absent. Mais je suis tranquille. Il ne le fera pas. Je parlais de Dieu tout à l'heure, je disais qu'il avait des perfections. Eh bien, ces perfections, elles sont infinies, et parmi ces perfections, il y a celle-ci, je le disais aussi, Dieu ne fait pas de brouillon. On prétend qu'il a créé l'homme le premier parce qu'il voulait faire un brouillon avant de s'attaquer au chef-d'œuvre qu'est la femme. Mais c'est une plaisanterie. C'est bien entendu une plaisanterie. Mettez-vous cela dans la tête. Dieu ne fait pas de brouillon. Quand il a décidé une chose, il ne revient pas. C'est ce qu'il y a de mieux à décider qu'il décide. Il est comme cela. Donc il me maintiendra dans l'être, vous aussi d'ailleurs. Par sa providence en ce moment, il nous maintient dans l'existence. Et il gouverne toutes ses créatures, toutes. Il les gouverne. C'est-à-dire que tout ce qui se passe est l'accomplissement de sa volonté. Tout, absolument. Je vais vous dire une chose qui peut-être va vous faire sursauter, y compris le péché. Calvin, vous le savez ou vous ne le savez pas, disait des choses affreuses à ce propos. Il était pour la prédestination au sens le plus strict, c'est-à-dire au sens le plus faux. Il pensait que Dieu, parce qu'il voyait bien cette histoire de providence, si Dieu est tout-puissant, il voit tout, il prévoit tout, il pourvoit à tout, et à tous ceux à qui il veut pourvoir. Il pensait qu'il avait prédestiné certains des hommes au salut, et qu'il avait prédestiné d'autres à la damnation. Et il dit, je ne sais plus quels sont ces mots exactement, je voudrais les savoir, parce que c'est du beau français. C'est quelque chose d'horrible, mais c'est du très beau français. Il dit que Dieu fait le bien dans les hommes qu'il a prédestinés au salut et qu'il fait le mal dans les hommes qu'il a prédestinés à l'enfer. Ça, c'est très faux. Je vous le dis pour que vous compreniez mieux ce que je dis maintenant, ce que j'ai dit il y a un instant et que je répète. Dieu gouverne toutes choses dans ce monde. Le péché est d'une certaine manière, je vais vous dire cela avec des détails dans un instant, un effet de sa volonté. Mais Dieu a deux volontés. Nous distinguons parce que nous sommes des hommes, nous distinguons parce que nous avons des esprits limités. Dieu est tout simple. Dieu a deux volontés. Il a une volonté positive. Il veut le bien. Il veut ce qui est. Il veut que je sois là. Et c'est très bien qu'il veuille que je sois là. Je suis un type très très bien, vous aussi d'ailleurs. Tout ce que Dieu veut positivement est bon. Tout ce qui est très bon. Il permet le mal, c'est sa volonté permissive. Il le permet pour un plus grand bien, qu'on peut entrevoir, mais qu'il est seul à comprendre tout à fait. Essayons donc de nous imaginer Dieu tissant l'histoire du monde. Rien ne lui échappe, rien absolument. Tout ce qui se passe, que je choisisse tel mot plutôt que tel autre, que vous oubliez de m'écouter pendant 5 minutes, tout cela est voulu par lui, positivement ou bien de façon permissive. Rien ne lui échappe. Le péché est permis par Dieu, je le répète. Et le premier des péchés, le péché originel, fut permis par Dieu pour un plus grand bien. Vous avez déjà assisté à la vigile pascale, vous savez qu'on y chante un très long texte qui s'appelle l'Exultet. Et dans cet Exultet, il y a ces quelques mots qui sont repris de saint Augustin. Ô Felix culpa, ô Felix culpa, ô heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. Dieu a permis le péché originel pour ce bien extraordinaire qui s'appelle la création. De temps en temps, Dieu nous entr'ouvre son ciel et son mystère pour que nous comprenions un peu ce que je suis en train d'expliquer en ce moment avec beaucoup de difficultés. Autrement dit, tout est bon. Tout est bon en ce moment. Même ce péché grave que j'ai peut-être commis hier ou aujourd'hui, c'est bon en ce moment. Ce n'était pas bon au moment où je le commettais. Ce n'était pas bon au moment où j'allais le commettre. Si vous êtes tenté de commettre une faute, je vous en prie, ne la commettez pas. Mais quand elle est commise, dites-vous qu'il y a beaucoup de bien à en tirer. Cela peut vous paraître étrange. C'est très difficile, en tout cas. Quand on a un tempérament porté au remords, comme c'est mon cas, il est très difficile de mettre en application ce que je vous prêche. Mais il faut le faire. Une fois la faute commise, on peut dire « heureuse faute ». Je le sais, d'ailleurs. Je le sais simplement parce que j'ai une vie déjà un peu longue et je m'aperçois que les fautes que j'ai commises autrefois ont tourné à bien. Parce que j'ai suivi Dieu, si vous voulez. Ses inspirations, sa grâce ensuite. Si quelqu'un va de péché en péché, il se damne. Et c'est encore pour un bien. Pas pour son bien à lui, mais pour le bien de Dieu. Il fait en cela éclater sa justice. Ça fait un peu frémir. Vous le chantez de temps en temps, je vous le fais chanter. Il y a un cantique de Grignon de Montfort que je vous fais chanter de temps en temps sur l'air du Bénédicité, là, voyez-vous. Sa douce providence conduit tout fortement, tout doucement, je ne sais plus exactement. Il fait éclater sa gloire dans le ciel, sa puissance sur la terre et sa justice en enfer. Je ne sais plus les mots, mais c'est cela que ça veut dire. Autrement dit, la providence, c'est cela. Il y a bien quelques erreurs sur ce point qui sont professées ici ou là. Je suis désolé de ne pas avoir mon texte parce que je m'aperçois bien que je dis les choses un petit peu dans le désordre. Mais ça n'a aucune importance finalement. C'est providentiel. C'est sûrement providentiel. Je ne sais pas à quoi Dieu voulait en venir, mais il a permis cela. Ou il l'a voulu, ce n'est pas si mal. Certains pensent que Dieu a créé le monde et qu'il lui a donné des lois. Et puis qu'il le laisse aller. C'est la chiquenaude initiale. Je ne sais plus qui employait cette expression. Je crois que c'est Descartes, mais je ne suis pas sûr. La chiquenaude initiale, un peu comme quelqu'un qui le soir remonterait son réveil et puis ensuite se coucherait et dormirait jusqu'à ce que le réveil sonne. Je remonte mon réveil et le réveil fonctionne tout seul. C'est contraire à la bonté de Dieu, ça. Comme je le disais au petit sermon tout à l'heure, Dieu n'est pas un Dieu froid. Un Dieu froid qui crée le monde, qui lui donne des lois et qui s'en désintéresse. Les hommes sont parfois comme cela, souvent même. Mais ce n'est pas beau. J'en connais qui sont tout feu, tout flamme. Les voilà qui font des projets, qui mettent tout sur pied. Ça pourrait marcher, ça marche pendant un certain temps, mais au bout de 10 jours, ils s'en désintéressent de ce qu'ils ont mis sur pied. Leur cœur est ailleurs, Dieu n'est pas ainsi. Dieu continue de s'intéresser à ce qu'il a créé. Donc mettons de côté cette erreur-là. Il y a l'erreur de ceux qui pensent que tout est écrit. Les musulmans, par exemple, tout est écrit. C'est la même chose, un petit peu. C'est la chiquenaude initiale. Dieu a donné des lois, et puis il se désintéresse, d'une certaine manière, de ce qu'il a créé. Ça marche tout seul. Ça aboutit là où cela doit aboutir. On fait abstraction d'une réalité dans cette histoire, qui s'appelle la liberté de l'homme. Ce n'est pas facile de parler de la providence. Il faut la prendre par plusieurs bouts. Dieu a évidemment donné des lois à ce monde qu'il a créé. Mais dans ce monde qu'il a créé, il y a des êtres bizarres. Il y a bien sûr des êtres qui ne posent pas de problème. Les êtres les plus bêtes, c'est-à-dire les êtres qui ne sont pas des bêtes. Les minéraux, ce qui est lourd, ce qui est stable. Et puis alors, il y a les torrents qui tombent, il y a l'érosion. Ça peut être permis tout cela. Ça peut être prévu et établi par des lois, je ne sais pas trop, parce qu'il y a de petits impondérables quand même, n'est-ce pas? Mais il y a des êtres qui sont moins bêtes, c'est-à-dire les bêtes, par exemple. Celles-ci sont déconcertantes. Vous avez un petit chien qui est tout gentil, puis hop, tout à coup, il mord. Qu'est-ce qui lui prend? Hein? C'est prévu par Dieu, cela. De toute éternité, rien ne lui échappe. Et il y a surtout, parmi les animaux, un animal qui est extraordinaire, qui est l'homme. Il est libre, et ça vous le savez bien que vous êtes libre, malgré Calvin, malgré les fatalistes, les musulmans, vous savez bien que vous êtes libre. Je pourrais parfaitement en ce moment cesser de parler, je suis parfaitement libre de le faire, ça m'embête de vous parler. Eh bien, je n'arrêterai pas. Je ferai mon devoir jusqu'au bout. Mais si je n'arrête pas, c'est bien parce que je l'ai décidé, je pourrais parfaitement décider le contraire. Comment Dieu va-t-il s'y retrouver dans tout cela? Eh bien, il s'y retrouve. Il sait de toute éternité que je vais continuer de parler. Ou si je cesse, moi je ne le sais pas encore, mais lui le sait déjà. Et il sait pourquoi. Imaginez une dame très habile qui fait une tapisserie compliquée, magnifique, n'est-ce pas? Tout est prévu, tout est dans sa tête. Elle a fait un plan. Dieu a fait un plan. Et s'il sait que je serai sauvé, j'espère être sauvé, c'est parce qu'il prévoit mes mérites et qu'il pourvoit à ce dont j'ai besoin pour mériter. Voilà différentes erreurs possibles dans lesquelles vous ne tomberez pas. Et après avoir parlé de ces choses qui sont un peu, j'allais dire un peu philosophiques, elles le seraient si j'étais philosophe, mais je le suis très peu, je vais passer à l'Évangile. Et si j'ai le temps, je vous parlerai rapidement du problème du mal. Parlons-en tout de suite pour être débarrassé. C'est cette objection qu'on fait toujours à la Providence. Mais pourquoi le mal? Je vous l'ai déjà dit plus ou moins. Je vous ai dit que c'était prévu pour un plus grand bien. Il est très difficile d'ailleurs de le dire aux personnes qui souffrent en ce moment. N'allez pas leur servir cette consolation-là. Vous la leur servirez après coup, quand elles ne souffriront plus. Mais pour le moment, elles souffrent, n'en dites rien. Mais nous sommes entre nous, là, nous sommes paisibles, alors nous pouvons y aller. Certains m'ont déjà entendu traiter ce sujet. Je prends toujours les mêmes exemples, mais ce sont des exemples si simples, si clairs, si beaux. Je commence par dire que le mal n'existe pas métaphysiquement. Le mal n'existe pas. J'ai dit
au tout début, que Dieu ne créait que de bonnes choses. Il ne crée pas le mal. Le mal, c'est une absence de perfection qui devrait exister, qui devrait exister. Si je me plains de n'avoir que deux jambes, je suis ridicule, parce que, en principe, un homme n'a que deux jambes. Moi, je voudrais en avoir trois. Alors, s'il y a du mal quelque part, chez moi, ce n'est pas du côté des jambes, c'est plutôt du côté de la tête. Mais imaginez que je n'ai qu'une jambe. Je m'en prends à Dieu. Mon Dieu, vous m'avez fait une jambe en moins. Réponse, pas du tout. La jambe que j'ai faite est très belle. Tu as une belle jambe. L'autre, tu ne peux pas me reprocher sa laideur puisqu'elle n'existe pas. Et l'autre exemple que je donne est celui-ci, qui est encore plus clair. Dans le gruyère, il y a des trous. Or, je vous affirme que ces trous n'existent pas. Ce qui existe, c'est le gruyère qui est autour des trous. Voyez-vous ? Alors, c'est un peu idiot, mais il est bien certain que le mal n'existe pas. Je vous dirai ensuite qu'il existe d'une certaine manière. Le mal n'existe pas, on ne peut pas reprocher à Dieu d'avoir fait le mal. Le mal, ça ne se fait pas, c'est du non-être. C'est du non-être. Et puis ensuite, alors, beaucoup de ce que nous appelons des maux ne sont que l'envers d'une belle médaille, ou plutôt, j'allais dire la plupart, peut-être tous, oui, tous, d'une certaine manière, c'est l'envers d'une belle médaille. Par exemple, il y a dans les prés de jolies marguerites. C'est extraordinaire ce que je peux aimer les marguerites. Et je suis désolé chaque fois que je vois les vaches manger les marguerites. Je me plains de la disparition des marguerites. Seulement, si les vaches ne mangeaient pas les marguerites, nous n'aurions pas de lait. Il faut choisir. Alors c'est un exemple parfaitement stupide, mais je crois qu'il est à votre portée. Et c'est pourquoi je l'ai choisi. Et je répète ce que je voulais dire avant de donner ces exemples. Le mal, c'est l'envers d'une belle médaille. Alors, la belle médaille, disons par exemple que c'est la liberté de l'homme. Si je n'étais pas libre de choisir pour ou contre Dieu, eh bien, je ne serais pas l'homme que je suis, c'est-à-dire quelqu'un de très bien. Cela entraîne des risques. J'ouvrirai une parenthèse dans un instant là, à propos de la liberté de l'homme et du mal qu'il peut faire ou ne pas faire. Cela entraîne des risques. Mais Dieu veut être choisi. Il est comme cela. Il veut être aimé librement. Il ne veut pas nous obliger à faire sa volonté, comme il l'exige des marguerites, par exemple. Les marguerites, en principe, font exactement ce que Dieu attend d'elles. Les violettes, de même, elles sentent bon. Mais elles n'ont pas la liberté de ne pas sentir bon. Nous autres, nous sommes libres, et en cela, nous sommes à l'image de Dieu. Et tous ces péchés qui entraînent toutes ces catastrophes sont simplement l'envers de cette belle médaille. Et j'en viens à l'Évangile maintenant. Je suis toujours plus à l'aise quand je parle de l'Évangile. Tout ce que je vous ai expliqué là, je l'ai très très mal expliqué. Très très mal expliqué. Parce que je ne sais pas l'expliquer, surtout quand on n'est pas de papier. J'avais fait un beau plan où il y avait sûrement des choses terribles. Mais notre Seigneur, finalement, n'a pas expliqué le mal. Il s'y est pris autrement. Il est venu le prendre, ce mal. Il l'a porté sous forme d'une croix. Et au moment où il cessait de porter la croix, c'était le moment où on le clouait dessus. Alors voyons l'Évangile. Dans l'Évangile, vous avez des phrases dans le genre de celle-ci. C'est pour la Providence, toujours. Tous les cheveux de votre tête sont comptés. Pour certains, ce doit être un tout petit travail. Il y en a dans cette église. Je ne regarde personne. Mais pour d'autres, tous les cheveux de votre tête sont comptés. Ça sont les images de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont des images orientales et choisies parmi les plus belles. Je suis toujours content de lire cette phrase. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'autant je souhaite que vous ne sachiez pas ce qui se passe dans mon âme, autant je suis désireux de voir Dieu y plonger jusqu'au tréfonds. Cela me libère. Quand je pense qu'en ce moment, il voit jusqu'au fond de moi-même. Il sait toutes choses. Il sait ce que vous pensez ou ce que vous ne pensez pas. Et si vous ne pensez pas, il le permet encore une fois. Il conduit toutes choses. Voilà l'autre phrase à présent, qui est plus connue et qui est plus belle et qui demande une explication. Regardez les lys des champs. Ils ne tissent ni ne filent. Et pourtant, Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Et presque aussitôt, il ajoute, « Ne prenez pas soin du lendemain, demain prendra soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Et puis finalement, il dit ceci, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par surcroît. » J'entends encore ma mère, au sortir du sermon, dire, elle n'osait pas s'en prendre à notre Seigneur tout de même. Elle disait, « Il est bien gentil, monsieur le curé. » Mais si je ne fais pas la cuisine, il y aura toujours quelqu'un pour la manger, la cuisine que je n'ai pas faite. Maman n'avait pas compris. Ce n'est pas un encouragement à la paresse. Notre Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter, ce qui est fort différent. Ne pas nous inquiéter. Nous sommes appelés à faire ce que nous devons. C'est dit dans l'affaire du royaume des cieux. Nous devons faire ce que nous devons, mais ensuite, nous devons ne pas nous inquiéter. Pas du tout. Par exemple, je n'ai pas trouvé mon papier tout à l'heure. Prenons des exemples vécus. Je me suis inquiété. Je n'aurais pas dû. Je veux dire pourquoi je n'aurais pas dû. Parce que le papier, je l'avais fait. Et parce que je l'ai perdu sans le faire exprès. Vous la voyez, la Providence. Alors, c'est à Dieu de jouer. Vraiment, je n'y suis pour rien. C'est à Dieu de jouer. Nous devons faire ce que nous devons et ensuite nous en remettre à lui. Ce qui est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Il y a autre chose aussi dans tout cela. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est toujours le « je dois faire ce que je dois ». Mais il y a le motif. Le motif qu'il faut probablement changer. Pourquoi est-ce que ma mère faisait la cuisine? Peut-être pour avoir la satisfaction de nous entendre dire que c'était bon. Si c'est vrai que ce motif était bas, terrestre, et combien peu elle cherchait le royaume des cieux. Il nous faut chercher le royaume des cieux, c'est-à-dire qu'il nous faut tout faire parce que Dieu nous le demande. Pourquoi est-ce que je vous parle en ce moment? Est-ce pour Dieu ou pour tout autre motif fort terrestre? Il y en a des quantités que je ne vous dirai pas. Pourquoi? Il faut que ce soit pour Dieu. Et ensuite, bien réellement, je n'ai plus à m'inquiéter parce que Dieu fera les choses. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par surcroît. Et cette promesse de Jésus, il la tient. Ce n'est pas une chose semblable à celle qu'on dit aux enfants. Vous savez, aux enfants, on dit cela. On dit, si tu es sage, tu auras une image. L'enfant est sage, et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on n'a pas d'image à lui donner. Mais notre Seigneur, ce n'est pas cela, il est très sérieux. Quand il promet une chose, il la tient. Je vous le garantis, dans mes rares bons moments où j'ai fait ce qu'il demandait, je me suis aperçu que c'était parfait quant au surcroît. C'est plus qu'on ne peut attendre, c'est sûr cela. Je crois que c'est dans l'imitation de Jésus-Christ qu'on nous demande, oui c'est là je crois, qu'on nous demande de n'imiter que Jésus et de ne pas imiter les saints. Motif, les saints ont chacun dans son genre imité Jésus. Nous pouvons nous encourager de leur courage, mais ils ne sont pas tellement imitables parce que chacun avait son genre. Il y en a de toutes sortes, vous savez, à propos de la Providence. Mais chacun dans son genre faisait très très bien. Un saint comme Saint-Vincent de Paul prévoyait toute chose à l'image de Dieu. Je suppose qu'il n'entreprenait rien que du moment où il avait, par exemple, l'argent qu'il lui fallait, ou à peu près. Vous avez d'autres saints qui sont fort différents. Il y a un saint italien qui vivait au siècle dernier, qui s'appelle Saint Joseph Cotolingo. Et il vivait à Turin. Il a fondé un hôpital assez extraordinaire que je n'ai pas visité puisque je ne suis jamais allé à Turin. Il paraît que c'est un hôpital dont on ne visite pas tous les services. Un hôpital dans lequel on reçoit ce que les autres hôpitaux ne veulent pas recevoir. Il doit y avoir des rayons où il y a des espèces d'idiots affreux, vous savez, avec des grosses têtes, tout cela. Il a fondé un énorme chose avec pas un sou. Et j'ai lu, je ne sais où, ça doit être vrai, j'ai lu qu'au moment où il s'apprêtait à fonder quelque chose de fort coûteux, il regardait dans son porte-monnaie. Un jour, comme cela, il avait besoin, disons, de 100 millions, quelque chose d'énorme. Il ouvre son porte-monnaie, il avait 15 centimes. Alors il ouvre la fenêtre à ce moment-là, ouvre, secoue son porte-monnaie sur le trottoir, referme la fenêtre et attend. Et au bout d'une demi-heure, on frappe, c'est les 100 millions qui arrivaient. À part ce petit détail, qui est un petit peu théâtral, c'était un Italien, voyez-vous, il mettait en pratique de façon parfaite ce que Jésus nous demande de faire. Avant de s'en remettre à la Providence, je suppose qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour trouver de l'argent. Par ailleurs, il était assuré que son projet était un projet divin. L'idée lui en venait de Dieu. Alors ensuite, on ne s'en fait plus. Il ne faut pas s'en faire. Si un père de famille a de nombreux enfants, s'il se trouve au chômage, il doit chercher du travail raisonnablement, sans s'énerver, parce que Dieu lui demande. Il ne cherche pas du travail pour en trouver. Il cherche du travail parce que Dieu le lui demande. Et puis tout s'arrangera. Je ne sais pas comment. Mais Dieu le sait. Voilà ce qu'est la Providence. Alors je vais conclure par une résolution. Une petite résolution. La résolution, vous avez dû la prendre déjà à propos de ce que je viens de vous expliquer là. Ne pas s'inquiéter. Faire ce qu'on peut, le faire pour Dieu, s'en remettre à lui. C'est extraordinaire ce que ça marche. C'est la première résolution, cela. Et puis il y en a une autre. Puisque tout est bien, y compris le péché, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils se sont mis à deux pour nous dire cela. Je vous parlais de saint Augustin. Saint Paul a commencé par... c'était un écrivain inspiré, saint Paul. Il lisait bien les choses, mais saint Augustin lisait derrière les mots. Hein? Saint Paul nous dit quelque part que tout concourt au bien de ceux que Dieu aime. C'est la Providence, ça. Et saint Augustin, qui estimait que ce n'est pas assez clair, ajoute dans son commentaire « Etiam peccatum », même le péché. Ma résolution, celle que je veux que vous preniez, est celle-ci. Toujours être joyeux, quelle que soit la situation. Encore une fois, même après le péché. Ne pas être joyeux d'avoir péché, mais être joyeux d'en porter les conséquences de ce péché. L'humiliation, la honte... le fait que peut-être on a été vu. Peut-être heureux, tout ça. C'est le bon Dieu qui l'a voulu, il le permet. Il l'a permis. Toujours être joyeux. Toujours, toujours, absolument. Pécher le moins possible, d'ailleurs. C'est le premier plan de Dieu. Il y a plusieurs plans dans la Providence. Il y a des plans de rechange. Mais tout est prévu. Et tout est pourvu. Il est pourvu à tout. Saint Jean Bosco, à un autre Italien, disait, ce sera ma conclusion, bien faire, voyez-vous, ne péchez plus quand même, bien faire, être joyeux et laisser piailler les moineaux.